À toutes et à tous, aujourd'hui dans cette émission, nous allons entendre une psychologue, docteur en psychologie, et c'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un qui arrive avec ce bagage, avec ce savoir à Lourdes. Pour vivre quoi et pour faire quoi ? Isabelle Godard-Auré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, j'aurais dû commencer par là, déléguée de Lourdes Cancer Espérance
oui. Pour
le département de l'Ain. Mais je vous ai présenté comme une psychologue, docteur en psychologie, parce que c'est votre métier que vous avez exercé en cancérologie. Vous avez exercé aussi dans le domaine de l'hospitalisation à domicile, des soins palliatifs, de l'accompagnement de toutes les personnes en souffrance. Et c'est d'ailleurs le prochain poste que vous allez prendre est en Suisse.
C'est ça.
Et il est dans quel domaine précisément ?
Cancérologie et soins palliatifs.
Voilà, donc là, vous vous plongez dans une réalité souffrante de personnes qui sont frappées par la maladie, le cancer, mais qui, pour un certain nombre aussi, se disent « c'est fini, très bientôt, c'est la fin de ma vie ». Et la psychologue que vous êtes, docteur aussi en psychologie, vous avez passé votre doctorat, votre thèse en peu de temps, entre 2013 et 2016.
C'est ça.
Vous avez été frappée à Lourdes par quelque chose sans doute que vous ne vous entendiez pas à vivre, par quelque chose que vous allez sans doute nous expliquer, ou essayer de trouver les mots pour nous dire en quoi la foi a fait irruption dans votre vie, alors pas seulement à Lourdes avant, mais à Lourdes aussi. Parlez-nous de cela, de cette expérience au sein d'un pèlerinage Lourdes Cancer Espérance.
Alors en 2016, j'ai fait mon premier pèlerinage. J'avais jamais fait de pèlerinage avant, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je suis arrivée avec Monseigneur Pascal Roland, le père d'Arme Dru, qui est aumônier de la pastorale de la santé dans l'Ain. Et il devait y avoir un autre couple avec nous, mais qui n'a pas pu venir, qui n'a pas pu faire le trajet parce que l'épouse a été malade. Donc je suis arrivée avec un évêque et un aumônier sur Lourdes.
Bon, c'était votre évêque en l'occurrence.
Alors c'était.
Et il devait présider
Lourdes Cancer Espérance. Donc c'était pas n'importe quel évêque cette année-là.
Voilà. Mais vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre.
Et du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, je suis arrivée dans une immensité de personnes, de pèlerins, d'hospitaliers, d'aumôniers, de médecins, d'accompagnants, parce que cette question des accompagnants, des aidants aussi, on en parlera peut-être, elle m'a tenu à cœur aussi. Et j'ai découvert une fraternité à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà, il s'est passé plein de choses pendant ce pèlerinage. J'ai vécu dans un monde à part pendant 4 jours. Bon, le retour à la réalité était un peu... un peu dur, mais vraiment, ça a été 4 jours. C'est indescriptible quasiment, tellement je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup d'émotions, des personnes qui sont tous portées par la même chose, avec la maladie qui les relie. Et en fait, cette maladie, finalement, on ne la voit quasiment pas. C'est ça qui est impressionnant aussi. Et chacun s'aide. Il y a une charité, il y a... une fraternité, les gens s'aident les uns les autres. On ne se pose pas la question de savoir qui on est, qui est l'autre. On est là et c'est tout. Et c'est la présence de l'autre qui vient nous aider à un moment donné. Et c'est ça qui est chouette, quoi.
Est-ce que vous diriez que vous êtes arrivé à Lourdes en étant psychologue d'abord ?
Non.
Et puis tout ça est tombé et vous êtes redevenue vous-même, Isabelle, au milieu des autres ?
Non, non, je suis arrivée en étant Isabelle. Parce que je suis d'abord Isabelle avant d'être psychologue.
Oui. Donc ce n'est pas un carcan, la psychologie,
non,
pour vous ?
Non, non, non.
Pas du tout.
C'est mon métier que j'aime énormément, que je fais avec passion et plaisir. Mais je suis d'abord Isabelle avant d'être psychologue.
On aura l'occasion d'aborder beaucoup de sujets avec vous sur la place de la foi dans les milieux dans lesquels vous êtes, les milieux médicaux, pas très simple. La place de la foi aussi... face à la maladie, la souffrance, et dans ce processus qui nous touche les uns et les autres, qui est d'être frappé par la maladie, par des échecs, des doutes, des problèmes. Et également, lorsque la fin de la vie se profile à l'horizon, puisque c'est une question que vous abordez souvent dans votre milieu professionnel, la place également de la foi dans tout ça. On vous doit un livre qui s'intitule « Vivre le deuil autrement », paru chez Chronique Sociale. En fait, ce livre, c'est votre thèse que vous avez rendue accessible au plus grand nombre.
C'est ça.
Et est-ce que vous abordez la question de la foi dans votre livre?
Alors non,
Pas
parce
du tout.
que pas du tout.
D'accord, comme ça c'est clair.
Ouais, non, non, parce que c'était pas le sujet. Mais par contre, la question de la foi est venue pendant mes travaux de recherche. C'est là où la foi est revenue dans ma vie, en fait.
Ah, donc vous êtes ce qu'on appelle une recommençante.
Je suis ce qu'on appelle une recommençante, c'est ça. Je suis recommençante depuis 2014. Donc c'est
Ça
tout récent.
signifie qu'il y a une grande parenthèse dans votre vie. Vous avez eu une éducation chrétienne,
Oui.
parenthèse, et puis on recommence.
C'est ça.
Racontez-nous un peu quand même.
Alors, mon recommencement.
Oui.
Alors, en fait, je travaille dans une équipe mobile de soins palliatifs et je faisais mes travaux de thèse. Alors, mes travaux de thèse sont le fruit aussi de toute une expérience professionnelle, hein, parce que je voulais pas. Voilà, d'abord, je me suis jamais dit qu'un jour je ferais une thèse. Et puis, en fait, j'ai fait un DU sur un diplôme universitaire sur le deuil et le travail de deuil. Et du coup, après, j'ai engrangé sur ma thèse. Parce que voilà, j'ai voulu aller plus loin. Et en fait, pendant ma thèse et pendant que je travaillais dans cette équipe mobile de soins palliatifs, on fait aussi des formations. Et il est arrivé un jour où il fallait faire une formation. Il y avait enfin, des temps de formation dans une communauté religieuse, la communauté des sœurs dominicaines à Bourg-en-Bresse. Et il se trouve qu'un jour, c'est moi qui suis allée pour faire cette formation. Et je suis arrivée avec tout mon matériel, vidéoprojecteur, ordinateur, etc. Jusqu'au moment où je me suis rendue compte que j'avais pas ma clé USB. Et j'avais rien sur mon ordinateur pour faire la formation.
Vous deviez donner une formation
Aux sœurs.
aux sœurs.
Parce qu'en fait, c'est des sœurs apostoliques et qui font du soin, qui sont infirmières, aides-soignantes et qui vont soigner les malades à domicile.
Donc là, vous êtes déplumé, vous n'avez rien.
Alors, je suis
Pas
arrivée,
d'ordi, pas de
voilà.
clé
Ah bah
USB.
si, j'avais l'ordinateur, le
Vide.
vidéoprojecteur.
Mais tout ça était vide.
Mais tout ça était vide. Pas de clé USB, j'appelle le secrétariat pour avoir au moins le cours par mail. En fait, il n'y avait pas de réseau Internet là où j'étais. Chez les sœurs. Donc, du coup, pas de cours. Alors, je leur ai dit, ben, écoutez, c'est pas grave. J'ai tout rangé et j'ai fait mon cours, ma formation pendant 2 heures, comme ça, en improvisant, avec un tableau et une craie. Et j'ai passé 2 heures extraordinaires, même plus, parce que ça a duré 2 heures et demie, je crois. Et ça a été un échange magnifique, ça a été un échange magique. Elles étaient intéressées et en fait, pendant ces 2 heures et demie, quand je suis rentrée dans cette communauté et pendant ces 2 heures 30 de formation, j'en sais rien. Il y a un truc qui est venu en moi qui, c'est quelque chose de l'ordre de l'indicible. Hein, ça s'explique pas, ça se vit en fait. Hein, et je suis repartie et je suis repartie de là-bas en me posant plein de questions. Et un jour, je me suis dit, non, mais il faut que tu y retournes. Et du coup, j'y suis retournée. Alors, j'avais rien dit à mon mari, ni à mes enfants. Et je suis retournée voir une sœur. Et en fait, je lui ai dit, écoutez, quand je suis venue, il s'est passé quelque chose ici. Et je voudrais comprendre ce qui s'est passé, quoi. J'en sais rien, mais il s'est passé quelque chose. Alors, on a longuement discuté. Elle a essayé de mettre des mots, mais voilà, c'était pas simple pour moi de comprendre ce qui se passait. Alors du coup, je suis retournée la voir une fois, deux fois, et en fait, je me suis dit, mais il va falloir que tu fasses ta thèse, et que tu écrives tous tes entretiens, tout ça, et que ta théorie, il va falloir que tu prennes du temps pour travailler. Et je me suis dit, finalement, est-ce que je pourrais peut-être aller travailler là-bas? J'ai vu qu'elle pouvait accueillir des personnes. Donc du coup, je leur ai demandé.
Et c'est là-bas que vous avez écrit votre
Et
thèse.
du coup, c'est là-bas que ma théorie est née, en fait. Ma théorie de ma thèse est née là-bas. J'ai fait tout le travail de retranscription des entretiens. J'ai fait toute l'analyse de mes entretiens, etc., en faisant le parallèle avec mes recherches bibliographiques. Et ma théorie psychologique est née là-bas.
Votre théorie psychologique, sans entrer dans le détail ou dans la complexité, c'est quoi?
Alors, c'était mon travail de thèse, c'était l'impact de l'accompagnement des personnes en fin de vie sur le processus de deuil du proche, c'est-à-dire lorsque l'on intègre le proche dans les soins du proche malade, de la personne malade, quel impact psychologique ça va avoir après pendant le travail de deuil.
D'accord. Et c'est dans ce milieu religieux que vous écrivez votre, qu'elle naît votre thèse et que vous l'écrivez, que vous la posez sur le papier, enfin en tout cas que vous l'incarnez.
Voilà, c'est ça. Alors du coup, quand je suis arrivée dans cette dans ce couvent, la sœur me dit, bah si vous voulez sortir, il y a des vélos, tout ça. Je dis non, mais je vais pas sortir. Hein. Et après, elle me dit, si vous voulez téléphoner, je fais non, mais je vais pas téléphoner pendant mes 8 jours. Elle me dit, mais c'est une retraite que vous faites. Et du coup, j'ai fait une retraite en même temps que ma thèse, en fait. Je suis restée sans lien avec l'extérieur pendant toute ma semaine. Et j'ai vécu des choses magiques. J'ai travaillé ma thèse tout en vivant une retraite, en lisant Éloi Leclerc en Le Maître du Désir. Ça, c'est un livre qui m'a marquée. Je l'ai lu, je crois, 2 fois pendant ma semaine. Et avec un passage qui m'a extrêmement marqué, je crois que c'est la page 53.
Oui, vous en souvenez précisément.
Il me semble que c'est la page 53 ou 51, quelque chose comme ça, sur la foi qui est un don gratuit de Dieu et que c'était à nous, en fait, de prendre ce don et de le faire germer et d'en faire quelque chose, quoi.
Vous nous racontez l'histoire de votre conversion, là.
Ben, un peu, oui.
Et donc, depuis ce temps-là, vous avez dû construire ou avancer avec ça.
Alors, j'ai avancé sur, d'un point de vue personnel, sur un plan personnel. Alors, doucement, j'ai été accompagnée par une sœur, par sœur Emmanuelle Marie, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Et puis la communauté, de toute façon, elles m'ont beaucoup apporté. Par des prêtres aussi, le père Michel, je lui dois aussi... Je lui dois beaucoup, le père Michel Montera, qui était aussi aumônier à l'époque à l'hôpital où j'étais. Et puis, ça m'a donné un regard autre sur la maladie. Ça m'a permis aussi d'écouter les patients avec une autre dimension. C'est-à-dire que j'écoute les patients avec la dimension psychologique, bien sûr, mais aussi avec la dimension spirituelle, quelquefois, pour certains. Et je me suis autorisée aussi à leur demander s'ils avaient une foi, une croyance. Peut-être quelque chose que je ne m'autorisais pas forcément avant. Et de le vivre moi-même, ça m'a permis aussi de me dire, mais oui, ça existe, ça. On le pense, bien sûr, parce que dans les soins palliatifs, la dimension spirituelle, elle est prise en compte. Mais je ne sais pas si on a forcément le réflexe de poser la question. J'en sais rien, peut-être que certains l'ont, d'autres peut-être moins. Et moi, je pense que je l'avais moins. Et ça m'a ouvert à cette dimension, Ça m'a permis aussi d'écouter la personne malade bien sûr, mais en tant que personne avant de l'écouter en tant que malade. C'est d'abord une personne avant d'être un malade.
Et donc ça veut dire que vous avez réintégré la dimension spirituelle dans votre pratique professionnelle en vous disant « c'est une des dimensions qui existe ».
Voilà, alors elle n'est pas...
Vous le saviez déjà, mais peut-être vous repoussiez involontairement.
Oui, je ne sais pas si je le repoussais, mais je ne la prenais pas en compte, je pense, autant que ce que je la prends en compte aujourd'hui. Et alors, elle n'est pas tout le temps là, hein, bien sûr, mais en tout cas, elle est là, certaines fois. Surtout, je ne m'interdis pas de poser la question. Alors, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous avez une croyance, si oui ou non? Et ensuite, on va plus loin.
Isabelle Godard-Auray, juste après la pause, nous continuons ce dialogue avec vous. Alors, nous parlerons de ce que vous avez vécu à Lourdes, mais également ce que vous vivez au sein de Lourdes Cancer Espérance. Nous nous poserons cette question aussi peut-être du regard de Jésus sur les personnes. Vous parliez du regard de la psychologue que vous êtes sur les personnes avant de regarder les malades. Tous ces échanges-là aussi sur la fin de vie, le soin palliatif. Bref, beaucoup de sujets à voir avec vous. Alors, on se dit à tout de suite.
Présence. Visage. Thierry Lyonnais vous invite à découvrir un nouveau visage. Ils sont écrivains, psychologues, aventuriers, engagés dans la vie politique, dans l'action humanitaire ou simples passionnés. Ces hommes et femmes, bien que tous différents, sont animés par la même passion de leur métier et le respect de l'autre dans sa différence. Visage.
Le lundi 17h05, le mercredi 10h03 et le samedi à midi.
De passage à Lourdes.
De passage à Lourdes.
Notre invitée aujourd'hui est Isabelle Godard-Auray. Vous êtes l'auteur de « Vivre le deuil autrement », ce livre paru aux Chroniques sociales. Mm-hmm. Et ce livre est aussi le fruit d'une grande réflexion de votre part, puisque c'est l'objet de votre thèse. Alors, un peu plus simplifié, puisque ce livre est accessible. Mais vous êtes également, alors là, c'est votre engagement d'église, je peux le dire comme ça, mm-hmm. au sein de Lourdes Cancer Espérance.
Oui.
Comment associer Lourdes, cancer, espérance, comment cela, tout cela est possible d'associer ces mots? C'est une question hein, qu'on se pose sans cesse et que vous, sans doute vous vous êtes posé. Vous êtes ce qu'on appelle une recommençante, vous nous avez raconté cela mm-hmm. dans la première partie de cette émission. Et à Lourdes, vous avez vécu aussi une expérience spirituelle de fraternité à travers le pèlerinage. Mm-hmm. Est-ce que vous vous diriez, comme docteur en psychologie, vous qui êtes psychologue, clinicienne et qui donc est à l'œuvre dans des milieux de santé, est-ce que vous diriez qu'il est possible de dire le spirituel, la foi, ça a une place singulière à reconnaître dans un processus de guérison? Est-ce que ça, c'est possible de le dire aujourd'hui dans un milieu de santé où c'est compliqué?
Ah non, je pense qu'on peut tout à fait le dire. Après, c'est quelque chose qui est complètement... individuel et singulier et bien sûr la foi, le processus spirituel va être une aide, un soutien pour certaines personnes, donc bien évidemment qu'on peut le dire.
Mais beaucoup de médecins ont du mal avec ça quand même.
Ah oui, mais ça...
Ils ne veulent pas l'entendre.
Oui, mais ça, c'est leur, j'ai envie de c'est dire, leur problème.
C'est leur problème.
Je crois que moi, je dis les choses simplement. Je crois que la personne, elle est à respecter dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle croit, dans ce qu'elle ne croit pas, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle n'est pas, etc. Et on n'a pas à juger ça quand on est dans le corps soignant. Y a des médecins qui sont croyants, il y a d'autres qui ne le sont pas. Après, ça, c'est une question totalement personnelle.
Oui.
Et on doit accompagner la personne. Dans sa globalité. Les soins palliatifs, c'est ça aussi, c'est accompagner la personne dans sa globalité. Donc on la prend, on l'accompagne telle qu'elle est. L'accompagnement, quand on prend les racines, c'est vraiment partager, quand on remonte hein, dans les racines, ça vient du compagnonnage, c'est partager le même pain que l'autre. Donc on va prendre son pain et on le partage, et quel que soit son pain, quoi. Si c'est pas, il est un petit peu raciste, ça ne nous convient pas, on le partage.
Mais cette dimension humaine très forte hein, dont vous parlez là, elle n'est pas toujours reçue parce que l'humain peut être vu comme une mécanique à réparer.
Oui.
Pour dire les choses de façon très prosaïque, hein, presque vulgaire.
Oui, mais un humain, ce n'est pas qu'une mécanique. Hein, c'est un esprit, c'est une âme, c'est un corps et c'est ça qui fait l'humain. Si on s'occupe que de la mécanique, bon, ça marche, hein, mais on y chire. Mais,
oui.
Ça... mais ça ne fait pas tout, quoi. C'est comme une voiture, hein. Vous réparez le moteur, mais si vous ne mettez pas d'essence dans la voiture, elle n'avance pas. Donc j'ai envie de dire que l'humain, c'est un petit peu pareil. Il a un corps qu'on va réparer. Le corps transpose aussi, est en lien avec son esprit, avec son âme. Et du coup, il faut tout relier et le prendre dans sa globalité. Et c'est ça, pour moi, il me semble, l'accompagnement.
Parce que quand on parle de réparer le corps humain, on peut avoir la vision... du chirurgien, hein, mais également la réparation psychologique. Enfin, ça, c'est mm-hmm. des domaines que vous connaissez bien. Y a peut-être un danger à mêler le spirituel, le psychologique. Ça peut être même une manipulation, parfois.
Non.
Vous avez ces préventions, vous, en voulant être très attentive à ces questions.
Oui, et c'est là où c'est important de savoir ce qu'on fait. Moi, je connais pas tout sur la foi, sur la religion. Je suis une recommençante. Je ne lis pas que des livres de foi. J'en lis un peu, mais je peux pas faire que ça parce que je lis aussi des livres de psychologie, puis je lis des romans aussi. Mais il y a des questions sur la foi où je peux pas. Il y a des fois je peux répondre, puis il y a des fois je peux pas répondre. Et quand je peux pas répondre, je ne réponds pas. Je réoriente vers les personnes de l'aumônerie. Vers un prêtre, vers une religieuse en fonction. Voilà, et je pense que dans les aumôneries, ils font pareil, c'est-à-dire que quand ils peuvent répondre, ils répondent. Et je pense que quand ils ne peuvent pas répondre, ils réorientent vers la psychologue s'il y a un problème psychologique.
Mais lorsque, comme vous, on peut avoir les outils de la psychologie et aussi des éléments de spiritualité, hein, ça peut conduire à des formes de manipulation. Enfin, on peut avoir de l'emprise sur les gens.
Bah,
touche là à des choses qui sont sensibles.
Oui, ça pourrait. Mais je suis vigilante à ça et je fais un travail sur moi-même pour bien me connaître. Il faut bien se connaître et on pose nos limites. Et là, on dit non. Là, je ne peux pas. Ce n'est plus de mon ressort. Donc là, je vous oriente vers l'aumônerie ou je vous oriente vers un prêtre.
C'est une question que vous vous posez souvent, ça, de savoir jusqu'où vous pouvez aller, vous, parce qu'on entre à l'intérieur des personnes avec votre métier, quand même, quelque part.
Je ne sais pas si on entre à l'intérieur des personnes.
On analyse les...
Oui, mais on analyse avec ce que la personne nous donne à analyser. Hein. Moi, je leur dis toujours à mes patients, vous savez, moi, c'est pas moi qui fais le travail, c'est vous.
Vous accompagnez, vous.
Moi, j'accompagne. Et après, je prends aucune décision à la place de la personne. Je ne donne pas de conseils. Bah, ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est pas notre boulot de donner les conseils. C'est la personne décide pour elle, elle sait ce qu'il y a de bon. Par contre, elle va venir avec nous, elle va essayer de voir, de faire le tri dans ce qu'elle pense, dans ses choix. Et après, elle fait son choix à elle.
De là où vous êtes, vous pouvez vous observer comment va le monde, de par votre prisme. Hein. Vous voyez les gens, lorsqu'ils sans doute frappent à votre porte, bon, pour dire « je vais pas bien », burn-out, dépression, alors on met plein de mots aujourd'hui sur toutes ces... parfois sans savoir d'ailleurs. Ça peut être désespérant pour quelqu'un comme vous de voir ces gens défiler et dire oh, « il va pas bien, il va pas bien, les gens ne vont pas bien, le monde ne va pas bien ».
Oui, ça pourrait. Moi, j'ai toujours et de l'espoir et de l'espérance.
Oui.
Et c'est ce qui me porte. J'ai toujours été sensibilisée à la question de la maladie, à la question de la fin de vie, hein, même pendant en 96, 15, je ne sais plus, quand j'ai passé mon Master 1 à l'époque, j'ai déjà travaillé dans l'accompagnement, j'ai mené une réflexion sur l'accompagnement fin de vie. C'est toujours quelque chose qui m'a animée. Peut-être que la question de la fin de vie et de la mort m'interrogeait, très certainement, hein, je ne suis pas psychologue par hasard. J'ai toujours été aussi animée par... accompagner l'autre. Alors après, j'ai une histoire personnelle aussi. J'ai un frère qui est handicapé mental. J'ai mon papa qui est décédé d'un cancer. J'ai une grand-mère qui avait une maladie d'Alzheimer. Donc voilà, toutes ces problématiques. Mais bon, après...
Mais vous portez toutes ces histoires en vous, oui,
voilà.
D'une certaine façon.
Et puis, il ne faut pas non plus s'appuyer là-dessus et s'éterniser là-dessus. Je m'en appuie pour en faire des forces.
Oui.
Mon frère qui est handicapé, eh ben, ça a été une super force pour moi, même si des fois j'ai ressenti de l'exclusion. Les personnes qui sont malades, souvent, elles ressentent de l'exclusion de la part des autres. Et je me dis peut-être que quand elles viennent me voir, elles ont une écoute qui est autre. Et quand elles sont, en plus, quand elles sont malades d'un cancer, quand elles sont en fin de vie, elles vivent peut-être encore plus l'exclusion, parfois parce que ça fait peur. On ne sait pas trop comment, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Et du coup, ben, j'accompagne les patients malades, mais j'accompagne les proches. Et les proches, ils ont aussi leur place. Les aidants, ils sont très importants à Lourdes, à LCE 01. Avec LCE 69, on est en train de proposer des choses pour les aidants parce que les aidants, le cancer, on a un aidant qui a témoigné l'autre jour, qui a dit une chose très belle, qui a dit le cancer, la maladie fait deux victimes. Le malade et son proche. Alors c'est même étendu parce que là c'était l'épouse et le conjoint, mais j'ai envie de dire c'est aussi d'autres victimes, c'est les enfants, les parents, enfin en fonction des situations quoi. C'est les proches autour, hein, c'est pas qu'une seule victime effectivement.
C'est vous qui avez, pour ainsi dire, créé cette délégation de Lourdes Cancer Espérance dans le département de l'Ain.
Oh non, moi j'ai rien créé du tout.
Enfin, en tout cas, vous avez pris la responsabilité.
Oui, ça s'est fait comme ça, mais je porte rien toute seule. Je le porte avec une équipe. Je me suis entourée. Il y a Anne qui est secrétaire. Anne Daune, je vais la citer, Michel Boudon qui est le trésorier, on a le père d'Armedru qui est notre aumônier, et puis toutes les autres personnes, les personnes qui ont tricoté pour LCE, les personnes qui ont fait des sacs, et c'est toute une équipe, c'est pas que moi. D'abord, il y a deux choses qui m'animent, c'est qu'on m'a toujours dit un bon délégué, c'est délégué. Donc je délègue et c'est important, je travaille, je ne peux pas faire toute seule, puis ça ne m'intéresse pas de faire toute seule. Et puis il y a une autre chose qui me porte, c'est un proverbe africain que j'ai fait, la devise un petit peu de LCE 01, qui est tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et moi je pense qu'il faut aller plus loin et c'est ça l'espérance aussi, c'est d'aller plus loin, toujours plus loin.
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Voilà.
D'accord.
Et c'est ça qui m'importe, moi. Peu importe la vitesse à laquelle on y va. Donc, on est une petite délégation, on est une quinzaine. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mon trésorier va me taper sur les doigts. Sinon, on doit être une quinzaine d'adhérents, entre 15 et 20. Et on doit avoir entre 40 et 50 sympathisants. On a Monseigneur Roland qui nous soutient beaucoup. On a la pastorale de la santé qui nous soutient. Le directeur des pèlerinages qui nous soutient aussi. Et on travaille tous ensemble et c'est ça aussi ensemble. Voilà, il y a plusieurs pèlerinages qui sont proposés et Lourdes Cancer Espérance en fait partie, comme le pèlerinage diocésain, etc.
Ma dernière question, Isabelle Godard-Aurès, elle est un peu plus personnelle. Vous nous avez parlé de votre retour à la foi. Vous avez deux enfants.
Oui.
Et vous êtes mariée.
Oui.
Ça les concerne aussi ou c'est votre histoire pour le moment?
Alors, ben, ça les concerne forcément, sauf qu'ils ne sont pas du tout croyants. Donc, c'est pour ça qu'au départ, quand je suis retournée à la communauté, j'y suis allée sans forcément rien dire. Et c'est après que j'ai dit à mon mari, écoute, je voudrais faire un séjour au couvent pour ma thèse et puis pour réfléchir aussi.
Il a dû écarquiller les yeux.
Alors, oui et non, parce que d'abord parce qu'on est un couple très ouvert. Mon mari est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de l'avoir.
Bon, voilà, c'est entendu.
Et il sait que je suis là aujourd'hui. Voilà, pendant 25 quelques années, il ne s'est rien passé. Et puis, je suis arrivée à aller à Lourdes deux fois dans l'année. Il a du mal à me suivre, mais il a toujours eu du mal à me suivre parce que je suis quelqu'un d'imprévisible. Mais du coup, on en parle beaucoup. Je le vis seule et en même temps, je le partage avec eux. Ben voilà, il fait des...
Et avec vos enfants, avec... 21 ans,
voilà,
25 ans.
Voilà, et puis
vos deux fils, hein.
Et mon mari qui a repris des études va travailler dans la bibliothèque des sœurs dominicaines.
Ah ben voilà, chacun fait son chemin.
Voilà, donc bon. Mais voilà, et puis bon, je me dis que bah, chacun fait son... Oui, c'est vrai, chacun fait son chemin. Et puis on verra bien, hein. Peut-être qu'un jour il entendra la voix de Dieu, puis peut-être qu'il ne l'entendra pas et ça lui appartient.
On souhaite un beau développement à votre délégation de l'Ain, de Lourdes Cancer Espérance.
Merci.
On vous souhaite aussi bon courage pour cette fonction que vous allez prendre au sein d'un service de cancérologie en Suisse.
Oui, cancérologie, soins palliatifs.
Soins palliatifs. Vous allez près de Lausanne, je crois que le lieu s'appelle Morges.
Oui.
Oui,
Morges et Aubonne.
Bon courage pour
Merci.
Cette prise de fonction et bon vent à vous, Isabelle Godard-Aurès.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.